de Sécheresse, un épisode Cévenol, l'eau dans le sud Aveyron. Une série d'émissions écrite et réalisée par Lola Cross, journaliste indépendante, dans le cadre d'une résidence de journaliste portée par Radio Larzac grâce au soutien de la DRAC Occitanie. Quatrième et dernière goutte, l'eau qui nous déborde.
Dans les épisodes précédents, il y a cette eau qui nous entoure, qui naturellement suit son cycle. Il y a en même temps l'eau que l'on apprivoise pour répondre à nos besoins, que l'on emprunte au milieu pour la lui rendre en partie. Et puis il y a toute cette eau qui accueille des activités multiples, qu'elles soient touristiques, agricoles, industrielles, de loisirs. Mais vivre près de l'eau, c'est aussi vivre avec le risque d'inondations soudaines, de ruissellements dévastateurs, de pollution multiple, que ce soit dans les eaux de baignade ou près des captages d'eau potable. Alors comment vivre avec cette eau qui à tout moment peut nous déborder? C'est tout l'enjeu de ce quatrième et dernier épisode de cette série de podcasts dédiée à l'eau, ses usages et ses enjeux en Sud Aveyron.
Vous voyez l'eau elle est montée, vous voyez le porche, hein. Vous voyez la fenêtre, hein. Et bien au milieu, presque au milieu de la fenêtre, l'eau était. Alors vous voulez faire un bâtiment, là, qu'est-ce qu'on fait? C'est plein d'eau.
C'est sur les quais, à Millau, que commence ce quatrième épisode. J'y retrouve Didier Martinez, président de l'association des riverains du Tarn et de la Dourbie, créée en 1996. Il est accompagné de membres du bureau.
Vous avez des panneaux là-bas au fond. Le panneau bleu, c'est la crue de 82. Elle était à 9,60 m de 1,80 m. Et vous avez les panneaux. Voilà, donc si vous voulez, c'est l'association à la base, c'est la préservation des biens et des personnes. Ça, c'est son but. Alors après, on a notre combat. Parce que si vous voulez, ma profession, j'ai été pendant plus de 40 ans règleur sinistre. Et ce qui m'agace, c'est que aujourd'hui, vous avez un sinistre, vous êtes pour rien, et vous recevez un joli courrier, on ne vous veut plus. Inacceptable ça. Donc si le sinistré fait l'effort de protéger sa maison, je dis, on ne résilie pas son contrat. Si vous voulez un bâtard d'eau, vous mettez ça dans vos portes principales, ça vous protège jusqu'à 1,20 m à peu près, hein, de montée d'eau. C'est étanche et ça empêche l'eau de rentrer. Alors après, vous avez le système, vous pouvez entourer votre maison d'une sorte de coussin gonflable. Ça ne vous protège jamais, pas de tout, évidemment, si vous avez une crue de 4 mètres. Mais déjà, ça vous protège un peu de la rentrée d'eau. Après, vous avez le problème de remontée d'eau par les égouts. Et là aussi, il y a un système pour bloquer ça.
Ça s'appelle le clapet.
Voilà.
Le clapet anti-retour.
Donc ça, vous voyez, tout ça, c'est des systèmes qui sont subventionnés, les gens ne le savent pas, ça. Et qui améliorent les choses. Vous voyez, tout ça... Petit à petit, il faut arriver à ce que les gens l'assimilent et qu'on avance. Ça aussi, c'est notre rôle. Vous voyez, on est un peu partout, mais c'est pour le bien de tout le monde. Moi, si on peut sauver 3 ou 4 maisons, je ne veux pas de médailles. Je suis contre les médailles et les honneurs, personnellement. Mais si je sauve 3 ou 4 maisons, si je sauve 3 ou 4 familles, ça, c'est une médaille.
Céline Delagne, directrice du syndicat mixte Tarn-Amont.
L'histoire a fait que l'approche autour des cours d'eau a évolué au fur et à mesure des années. Donc après-guerre, on était vraiment dans la reconquête du bord de cours d'eau avec une urbanisation de plus en plus importante qui a coïncidé aussi avec une période où il y avait moins de crues. Et donc on est venu chercher à développer les activités au bord de l'eau, à construire de plus en plus. Parfois au détriment en fait de l'espace naturel de la rivière, au détriment aussi de sa qualité, avec des pollutions de plus en plus conséquentes qui sont arrivées, et aussi l'idée que l'eau, il faut la faire partir au plus vite. Lorsqu'elle arrive, il ne faut pas qu'elle inonde, il faut curer, il faut rectifier les cours d'eau, il faut les aménager. On avait une main assez importante au niveau des aménageurs en fait sur les cours d'eau. et au détriment voilà, des milieux aquatiques, des espèces qui vivaient là, du fonctionnement naturel, etc. Et puis, au fur et à mesure des années, dans les années 90-2000, il y a des notions plus importantes qui sont arrivées autour du fonctionnement biologique et physique du cours d'eau, en lien avec ce qu'on appelle l'hydromorphologie, donc la dynamique du cours d'eau, comment le cours d'eau vit, en fait, avec ses différents compartiments. Et donc, de là est arrivé des syndicats de rivières qui ont été un peu la transition entre des syndicats vraiment très aménageurs hydrauliques et des syndicats comme on les connaît aujourd'hui où c'est qu'on prend l'ensemble des compartiments écologiques et physiques et puis avec les usages, l'activité humaine qui s'est développée. Tout ça était aussi lié à de la réglementation qui a évolué, des lois sur l'eau qui ont créé, la première loi sur l'eau c'est 64, donc qui a créé en fait une vision par bassin versant, et petit à petit, voilà, on est allé sur cette gestion intégrée par bassin versant, qui ne s'arrête pas aux limites administratives d'une commune, d'une com-com, d'un département, et on réfléchit vraiment à l'échelle géographique du cours d'eau et de son bassin. Voilà. Et malheureusement, entre guillemets, cette vision raisonnée, elle se heurte parfois à la construction, enfin aux constructions qui se sont faites en bord de cours d'eau et à devoir composer avec. Avec des gens qui habitent en bord de cours d'eau, qui n'ont peut-être pas conscience complètement, voire pas du tout, même du risque qu'ils prennent au niveau des inondations. Et donc, on doit composer avec cet équilibre, avec des choses qui sont existantes. En fait, oui, on a une mosaïque d'acteurs sur le territoire qui est en place depuis pas mal d'années, hein, plutôt institutionnelle. Et depuis quelques temps aussi, on a des collectifs de citoyens, associations aussi citoyennes, etc., qui se mettent en place sur différentes thématiques, mais en lien avec la rivière, avec l'eau. Alors certaines au départ, comme l'association des riverains du Tarn et la Dourbie, qui était plus sur l'axe inondation après la crue de 82, mais finalement on voit qu'elle s'intéresse aussi à la qualité, aux conflits d'usage qu'il peut y avoir en été. On a aussi une association sur Nantes en transition, qui est là aussi pour éveiller les consciences par rapport au changement climatique, aux bonnes pratiques, aux bons gestes, aux économies d'eau, aux restaurations aussi de zones humides. Ils ont un gros projet sur Nantes. Voilà, et donc ça, c'est un réseau d'acteurs avec qui on essaie de travailler de plus en plus. Et finalement, il y a aussi un peu un changement dans la pratique, où avant on était plutôt sachant, mais sans être non plus des experts, mais aujourd'hui en fait on est tous sachants en fait, et on partage aussi ces savoirs, cette connaissance du territoire. Nous on a un très grand territoire, donc on peut pas être tout le temps sur chacune des communes, avoir un rôle aussi de veille, de sentinelle. Et puis également on doit composer avec les changements climatiques qui nous arrivent, des pluies plus intenses, des sécheresses plus intenses. Et donc on est aujourd'hui face un peu à ce défi pour les années à venir, les décennies même je dirais à venir, mais ça va très vite quand même. Donc on est face à ce défi à devoir composer avec ces éléments-là, avec quand même une capacité de résilience, on le voit des habitants, hein, des crues. Il y a 10 ans sur le bassin du Cernon, hein, en aval de Millau. Aujourd'hui, on sait qu'elles ont été là, mais des fois, on oublie un petit peu. Et donc, on est là aussi pour rappeler ce souvenir, rappeler qu'on ne peut pas faire n'importe quoi au bord de cours d'eau, que la plupart du temps, c'est un très beau territoire. On aime se promener, on a des paysages magnifiques chez nous, une richesse encore assez exceptionnelle de nos cours d'eau en termes de qualité. Mais parfois, on a des cours d'eau qui se transforment, qui sont dévastateurs. On le connaît de temps en temps. Et donc ça, il faut s'en souvenir. Parce qu'après, c'est dur quand même de revenir à la réalité. Voilà. Alors, on a un rôle de conseil. Après, c'est là aussi, il y a une réglementation sur la sécheresse qui existe, qui a évolué au fur et à mesure des années. Là, la dernière évolution, c'est 2023, donc c'est relativement récent, avec une gestion qui se veut la plus harmonieuse en termes de bassin versant, surtout le bassin du Tarn, hein, donc jusqu'à la confluence avec la Garonne, dans le Tarn-et-Garonne. Donc ça fait voilà, beaucoup de réseaux et de cours d'eau. Donc la réglementation est là, elle vient chapeauter, on va dire, tout ce qui est les usages, la restriction en fait sur les usages. Et parfois, quand même, on est là pour, on est là pour accompagner les communes pour faire appliquer cette règle. Et comment, quand ils ont une problématique peut-être de, je sais pas, d'arrosage ou un particulier qui serait peut-être un petit peu en défaut, on n'est pas là pour faire la police, mais on peut accompagner la commune pour peut-être avoir une documentation qui va bien, pour le rendre ça pédagogique en fait, et pas dans le côté répression en fait et police de l'eau, parce que c'est vraiment par contre pas notre rôle quoi. On n'est pas là pour verbaliser, on est toujours dans cette forme de conseil. Et après lorsqu'il y a par contre des infractions, là il y a d'autres services comme l'Office français de la biodiversité, les services de l'État qui mettent en œuvre des procédures pour aller sur de la verbalisation.
Florian Ferjeau, chargé de mission milieu aquatique au syndicat mixte.
À chaque fois qu'on a pu mettre un enrochement, une activité en bordure de cours d'eau, on est venu petit à petit bloquer la circulation naturelle du cours d'eau. Quand on regarde des photos aériennes anciennes, qui sont pas si anciennes que ça, des années 1950, on avait tous les bords de cours d'eau qui étaient des zones de gravier, des zones de plage, où on venait tirer du gravier. Donc notamment pour les centrales à béton et choses comme ça, on s'est aperçu qu'un cours d'eau, c'est pas que de l'eau, c'est de l'eau et des matériaux. Si on lui retire ses cailloux dans le lit, la rivière, pour dissiper son énergie pendant les crues, les inondations, elle va le prendre sur les berges. Donc on s'est retrouvé avec un fonctionnement du cours d'eau qui, le lit s'est enfoncé au fur et à mesure, en prenant, parce qu'on lui avait retiré tous ses graviers, il est venu le prendre sur les berges, donc les berges se sont effondrées parce qu'elles étaient beaucoup trop hautes, et du coup la rivière s'est retrouvée beaucoup plus large. Et donc, au fur et à mesure du temps, on est venu utiliser ces espaces de largeur pour venir mettre des activités, des usages, un parking, un camping, des choses comme ça, sans forcément empiéter sur la rivière elle-même, mais sur son espace attenant. Et donc, aujourd'hui, on mène aussi, parfois, pour donner un coup de pouce à la rivière et accélérer un peu sa cicatrisation face à toutes les activités humaines, on peut mener des travaux de restauration de zones d'expansion de crues. C'est-à-dire qu'on va venir... Il y a un double intérêt, c'est à la fois réduire la vulnérabilité dans cette zone inondable et à la fois redonner à la rivière un fonctionnement naturel. On va venir de ce fait enlever des habitations ou des bâtiments en ruine qui seraient sur les bords, ou éventuellement même reculer des activités touristiques comme des campings, donc des emplacements de camping qui peuvent être en bordure. On va pouvoir les remettre hors zone inondable ou un petit peu les déplacer pour qu'ils soient moins vulnérables aux inondations. Et par un autre type de travaux, reculer la berge, redonner des pentes beaucoup plus douces et avec une végétation aussi plus naturelle, adaptée en bordure de cours d'eau pour que la rivière puisse venir prendre des matériaux, en déposer et dissiper son énergie en cas de crue. Donc on a un vrai rôle quand on restaure des zones naturelles d'expansion de crue, à la fois sur les inondations et à la fois sur le fonctionnement du cours d'eau. Et quand même, il y a une réponse essentielle. Comment est-ce qu'on a programmé des travaux de restauration de zones d'expansion de crues? C'est surtout à la suite d'épisodes de crues intenses, importants. On pense notamment au Cernon, donc la crue de 2014, a fait émerger deux projets de restauration majeurs, qui sont à Saint-Rome de Cernon, pour le premier qui a été d'enlever un terrain de sport, enlever des vestiaires, parce qu'ils avaient été inondés et gravement touchés par la crue du Cernon. Et à l'aval de Saint-Rome-de-Cernon, on pense à Saint-Georges-de-Luzançon, où donc là, il y a une zone d'expansion de crue qui a été restaurée, avec également un vestiaire qui a été démoli parce qu'il avait été inondé, des graves dégâts sur les berges. Donc en fait, ces travaux de restauration de zone d'expansion naturelle de crue, ça se fait par opportunité, mais surtout parce qu'il y a eu des dégâts constatés. Et pour essayer de réduire un petit peu les hauteurs d'eau dans les habitations, on peut proposer des zones d'expansion à l'amont de ces villages-là. Et donc ça a été le cas parce qu'on a fait pour l'instant deux travaux majeurs à Saint-Rome-de-Cernon et à Saint-Georges-de-Luzançon sur le Cernon, et le prochain qui est en cours, qu'on a débuté fin 2024 et qui va se terminer début 2026, sur le Tarn, sur une zone qui était déjà publique, mais qui a été par opportunité. Il a fallu énormément acquérir de foncier, parce que c'est la grosse problématique. On disait que toutes les berges sont privées, et pour pouvoir mener des travaux d'ampleur sur un kilomètre et demi de rivière, il faut aussi maîtriser le foncier. Donc c'est les choix des élus et une maîtrise foncière importante qui a été menée depuis des années, et c'est des projets qui sont coûteux et qui sont quand même relativement longs en termes de procédures administratives et financièrement aussi, voilà, très... très lourd à porter par les collectivités. Donc voilà, on en a fait pour l'instant deux, il y en a un troisième qui se finira fin 2026, début 2026, pardon.
Environ 4200 habitants vivent en zone inondable dans la communauté de communes de Millau, dont 3200 à Millau. Cela concerne 1100 bâtiments d'habitation. Je rencontre Patrick Pess, élu millavois et communautaire en charge notamment de l'urbanisme et du logement.
Qu'est-ce qu'on fait si le temps arrive à 4 mètres? Qu'est-ce qu'on fait si le temps arrive à 6 mètres? Qu'est-ce qu'on fait si le temps arrive à 8 mètres? Quelle personne à prévenir? Quelle action on doit mener? Voilà en gros. Et ensuite aussi, penser à, c'est listé aussi dans le plan, à qu'est-ce qu'on fait dans des personnes qui doivent être évacuées, où est-ce qu'on les recense, quels sont leurs points de chute, où est-ce qu'on peut les prendre en charge justement pour venir à leurs besoins, c'est-à-dire éventuellement alimentaire, couchage et autres. On se rend compte depuis 3 ans que maintenant, le temps peut déborder n'importe quand. Il y a des pluies soudaines, il y a des épisodes méditerranéens où c'est venol, comme on dit. Et effectivement, en fonction du point de chute de l'eau sur le mont Lozère, l'eau va ruisseler soit vers le Tarn ou vers le Lot, ou de l'autre côté, plutôt vers l'Ardèche. C'est vrai que nous avons appris quand même une expérience depuis la crue de 1982 et la crue de 1994. Donc ce sont les deux dernières crues mémorables, je dirais, sur la ville de Millau. Jusqu'à maintenant, bon, nous n'avons pas eu d'autres. C'est vrai que nous avons eu des hauteurs d'eau jusqu'à 5 mètres, mais à 5 mètres, il y a très peu de risques. Et parce que donc effectivement, les crues, c'était en 82, en 94, ça fait déjà quand même 30 ans, 40 ans en arrière. Donc les gens ont peut-être oublié un petit peu qu'est-ce que c'était que la crue. Des personnes qui ont vécu les pieds dans l'eau, peut-être il y en a qui doivent s'en rappeler. D'autres personnes qui l'ont vécu ne sont peut-être plus là. Justement, alors après, au-dessus d'une certaine hauteur d'eau, de mémoire, il me semble que c'est 5 mètres. Il y a un passage d'une voiture sirène dans les rues de la ville, dans les bas quartiers de la ville, avec, donc alerte à la population par sirène. Mais j'ai vécu celle de 82 et celle de 94 en tant que pompier. Mais disons qu'en 82, j'étais jeune infirmier, donc j'ai passé beaucoup de temps à faire que de l'ambulance et prendre des appels, parce qu'à l'époque, donc, les appels du 18 se faisaient au centre de secours. Donc j'ai passé beaucoup de temps au standard à prendre des appels de secours. Et dès qu'il y avait un appel ambulance, je partais à l'ambulance. Parce que c'est vrai que la majorité des interventions, c'était pour du secours à personne, mais inondation, pas ambulance. Okay. Voilà ce que je me rappelle. Après, donc, je me rappelle après la désolation qu'il y avait donc, dans les rues de Millau, le long des quais, la rue Louis Blanc. Le problème, c'est que dans notre territoire, nous sommes dans des vallées encaissées, et je ne vois pas comment on pourrait faire pour faire des zones d'expansion de crues. À part de pouvoir faciliter l'écoulement de l'eau en amont et vider un maximum le... D'ailleurs, c'est ce qui se fait plus bas, au niveau des barrages, des retenues pour les barrages d'EDF, au niveau de Pilet, tout ça, ils arrivent à baisser le niveau du Tarn de façon à pouvoir faire évacuer un maximum d'eau en amont. Deuxième risque, donc, et peut-être, d'après moi, c'est le risque, je dirais, le plus dangereux pour les habitants de la ville, donc ce sont les risques au niveau des ravins. Celui qui nous préoccupe le plus, c'est le ravin du ruisseau de la Mère de Dieu, enfin le ravin de la Doue. Et pourquoi? Donc, imaginons un orage stationnaire au niveau de Saint-Germain et il pleut abondamment pendant un certain temps. Et bien, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une montée d'eau, rapide d'eau, qui va s'accumuler parce que donc, ça va raviner donc, tout le long dans le ravin. Et ensuite, donc, il risque d'y avoir une lame d'eau qui arrive sur la ville de Millau par ces ravins. Donc le problème, c'est qu'il y a effectivement donc le premier problème, c'est que donc nous n'aurons que très peu de temps pour réagir, à savoir qu'il faut compter entre un quart d'heure et demi-heure pour que l'eau arrive donc sur la ville de Millau. La question, c'est d'arriver à diminuer la vulnérabilité donc des habitations. Il y a quelques maisons justement qui sont à risque, je dirais. Et donc, effectivement, peut-être qu'un jour, il faudra aller voir ces habitats-là, leur expliquer que c'est trop dangereux d'habiter là, et peut-être voir avec, justement, dans le cadre de leur barnier, arriver à acheter leurs biens et leur proposer un autre lieu de vie. Et c'est une réflexion sur quelques maisons que nous avons, ça a été évoqué. Aucune démarche pour le moment, je pense, n'a été faite, il me semble. Il y a quand même des zones, comment dirais-je, constructibles, non constructibles, naturelles. Donc il y a tout un tas de. Il y a zonage là au niveau de la commune. Et en fonction du zonage, on sait que si on sait très bien si la zone est constructible ou pas.
Okay.
Et on s'appuie là-dessus.
En termes de...
Ça, c'est dans le cadre du plan local d'urbanisme. Alors, c'est justement là aussi, les permis de construire seront aussi donc accordés par rapport aussi à la surface donc construite, perméabilisée en fonction donc, de la surface d'intérêt. Quand on parlait donc, quand je parle donc de la réflexion dans le cadre donc des permis de construire, on regarde donc à ce que le terrain soit le plus perméable possible et on fait attention à diminuer la surface imperméabilisée. De façon à augmenter le risque de perméabilité, donc pour favoriser l'absorption de l'eau. Alors, à savoir aussi, on a quand même la possibilité actuellement de construire sur des, comment dirais-je, sur quelques dents creuses en bord du Tarn. Donc ça, c'est dans le cadre du PLUI. Donc, il y a deux, trois zones où on peut construire encore. Mais il faut impérativement prévoir des sorties pieds secs au niveau des habitats.
D'accord, ça voilà. Comprend.
Alors, c'est-à-dire sortie pieds secs, c'est-à-dire qu'une sortie qui puisse, que les habitants puissent évacuer la zone habitable vers une sortie pieds secs, c'est-à-dire donc hors zone inondable. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que cette sortie soit située au-dessus de la hauteur maximale d'eau. Donc, dans le cadre des ravins, et c'est vrai qu'il y a aussi une action, donc on passe jusqu'à maintenant, donc on parle des résidents, quoi, des riverains, mais je pense qu'il faut aussi parler donc des riverains qui sont en amont, entre Saint-Germain et Millau, qui sont on va parler des agriculteurs. Alors, c'est vrai dernièrement, donc quelques années en arrière, donc c'était la mode, donc c'était du remembrement. On arrachait les haies, on arrachait tout pour pouvoir faire des grandes surfaces cultivables. Et maintenant, on se rend compte plus tard qu'effectivement, c'était une erreur, parce que le fait d'avoir levé les haies, d'avoir fait tout ce remembrement, on accélérait le ravinement donc, des terres dans les ravins. Et donc c'est vrai aussi, que c'est pour cela aussi donc, que des agriculteurs donc, replantent des haies, ne serait-ce que pour ralentir l'écoulement de l'eau, ne serait-ce aussi que pour la biodiversité, parce qu'il faut, on peut en parler aussi, parce que c'est dans le même cadre, ça rentre dans la réflexion de remettre des haies, et puis aussi peut-être arriver à, comment dirais-je, la façon de labourer, donc c'est pas moi qui vais quand même apprendre aux agriculteurs à labourer leur terre, mais c'est vrai, je comprends, et c'est plus simple de labourer dans le sens, comment dirais-je, perpendiculaire à la pente, parce qu'effectivement c'est beaucoup plus simple avec le tracteur, ce que je conçois, mais l'inconvénient c'est qu'effectivement s'il pleut derrière, eh bien, le fait du sillon, eh bien, ça va accélérer la descente de l'eau vers le ravin, il faudrait qu'ils arrivent à labourer dans le sens du ravin, parallèle au ravin.
Au Centre technique municipal de Millau, je rencontre Jonathan Gien.
Je suis directeur du Centre technique municipal à la ville de Millau. Donc, mon rôle, c'est de coordonner, grosso modo, toutes les équipes qui travaillent de leur main pour la collectivité. Donc, que ce soit propreté, espace vert, voirie, bâtiment, gestion des véhicules. Tout ça, c'est mon rôle, quoi. Alors, de l'eau mi-avoise, on s'en sert à plusieurs titres. Donc, dans nos activités de propreté urbaine, donc l'eau, que ce soit du Tarn ou du ruisseau de la Mère de Dieu, nous sert à nettoyer les rues. L'eau du ruisseau de la Mère de Dieu ou du Tarn aussi nous sert à arroser nos végétaux, à remplir nos bassins et nos fontaines. Voilà, puisqu'il faut savoir que aucun de nos végétaux n'est arrosé par des réseaux où l'eau est traitée, mais uniquement par de l'eau naturelle qui va des contreforts de Millau vers le Tarn. Alors on n'a pas de seuil par an. Par contre, on a des restrictions qui sont les mêmes que que les autres villes ou régions ou territoires quand il s'agit de problèmes de sécheresse. En plus de ça, on s'astreint à des règles d'exemplarité où lors de l'épisode caniculaire de 2023, on aurait pu continuer à arroser et à puiser dans les nappes et pour autant on ne le fait pas pour montrer l'exemple et remplir notre rôle plutôt pédagogique. Alors, le plan communal de sauvegarde, c'est un document qui recense les risques naturels majeurs auxquels sont soumis les collectivités. C'est un document qui est obligatoire pour toutes les communes, qui va l'être pour les EPCI, donc la communauté de communes en l'occurrence, et qui recense les actions mises en œuvre pour lutter contre tous les aléas naturels donc, ou industriels, donc que ce soit mouvement de terrain, épisode neigeux, risque d'accident, on n'est pas soumis ici, mais risque d'accident industriel. Et pour ce qui nous intéresse, il y a aussi le risque inondation, donc qu'il soit lié au débordement du Tarn ou de la Dourbie, ou d'événements liés au ruissellement, notamment des ruisseaux de la Doue, du Talvec, de la Mère de Dieu, qui débordent lors d'épisodes orageux intenses. Donc dans ce document-là, dans le plan communal de sauvegarde, sont intégrées les mesures que nous prenons lorsque nous sommes avertis d'aléas qui vont subvenir. Donc la protection des biens et des personnes, donc fermeture de voies, mise à l'abri de population, évacuation, voilà tout genre de choses, mise en stock de denrées alimentaires, d'eau, voilà tout ce qui nous permet de gérer une crise en cas de submersion par le Tarn ou de ruissellement qui engendrerait des dégâts. Alors concrètement, c'est les services de l'État et de la préfecture qui, eux, ont une veille météorologique et qui gèrent les vigilances et les vigilances, notamment via Vigicru, sur la mise en alerte au niveau des cours d'eau. Donc, grosso modo, s'il est annoncé une grosse pluie sur le haut du bassin versant du Tarn-Amont, donc qui dessert Millau, la DDT et la préfecture nous informent de potentiels débordements. Et à ce moment-là, nous prenons nos dispositions suivant la hauteur d'eau atteinte. Nous avons des enjeux touchés ou pas et nous prévoyons des actions en fonction de ces hauteurs d'eau. Mais en plus, la particularité de Millau, c'est qu'il y a une très forte... une culture de risque très importante. Puisque nous avons un ABAC qui date de très longtemps, qui nous permet de savoir, suivant les hauteurs d'eau à Florac notamment, quelles sont les hauteurs d'eau que nous atteindrons à Millau plus tard avec un retour de 8 heures à peu près, entre 8 et 10 heures suivant la saturation des sols. Et nous savons à peu près à quelle hauteur l'eau va arriver à Millau. Donc en plus des prévisions de la DDT, nous faisons nos propres calculs et nous savons à peu près les aléas qui vont subvenir. Donc nous avons souvent des prévisions qui sont plus fiables que celles de la DDT avec notre abacle ancien. À Millau, vous verrez des plaques de rue où ce n'est pas des points IGN, c'est la côte au pont le Rouge. Donc, un exemple concret, on sait que à 1,90 m, entre 1,80 m et 1,90 m, la nouvelle passerelle du Sautadou est submergée. Donc, là, c'est arrivé il y a 15 jours. L'eau, on savait que l'eau allait atteindre un 70 ou un 80, donc on a pris par sécurité l'option de fermer la passerelle. On sait qu'à 4 mètres, le pont Roussel, donc le pont qui mène de Millau à Creissel, risque d'être submergé. Donc si on sait que l'eau va atteindre ou approcher les 4 mètres, on s'oblige à fermer le pont Roussel, quoi. Voilà. Alors, les riverains sont prévenus par un système d'alerte qui est une liste où on s'inscrit sur volontariat. Donc, c'est une liste d'appel sur laquelle on envoie un message aux personnes qui sont inscrites pour leur dire que la côte du Tarn va atteindre tel niveau à telle heure, si la crue est en route, si la décrue est en route, tout ça. Donc ça, on le fait sous forme d'appel aux riverains via une inscription sur une liste d'appels. Et en plus, on a un répondeur où, lors d'aléa, on laisse un message qui est consultable par les habitants via un numéro de téléphone où ils appellent et sur lequel je laisse un message. Le même message qu'on envoie grosso modo aux personnes, mais qui est consultable par toute la population. Alors, les inquiétudes, oui, elles évoluent puisque le dernier événement majeur qui est 94 à Millau, avant ça il y avait la crue centennale de 82. On sait que ça va se reproduire, on ne sait pas quand. C'est pas une question de si ça va se reproduire, c'est quand est-ce que ça va se reproduire, puisque la définition d'une crue centennale, c'est chaque année cette crue a une chance sur 100 de se produire. Donc plus on avance, plus les chances augmentent. Plus les chances augmentent. Donc on se prépare à un événement de cette taille-là. On fait évoluer nos systèmes, on travaille aujourd'hui pour fonctionner à partir des SMS aussi ou de mails, en plus des appels. On a renforcé notre système de sécurisation des ravins. On a commencé par le ravin du Ladou, pour lequel des études ont été lancées et un plan de financement à hauteur de 200 000 euros a été voté par les élus pour rénover des pièges en bâcle et pour créer un système d'alerte à la population en cas de débordement de ce ruisseau-là. Voilà, donc c'est des choses qui évoluent. Ce qu'il faut qu'on s'attache à faire aussi, c'est à garder cette culture du risque, puisque plus le dernier aléa s'éloigne, moins on a de culture du risque, donc il faut qu'on s'attache à le maintenir. Et aussi à bien faire comprendre qu'il n'y a pas que le Amio, le Tarn n'est pas le seul danger. On se rend compte que les gens qui habitent au bord du Tarn, ils ont cette culture du risque puisqu'ils ont grandi à côté de la rivière. Ceux qui habitent proche d'un ruisseau, d'un ravin ou d'un talweg qui voient de l'eau une fois par an, parfois ils ignorent qu'ils habitent dans un ravin qui peut potentiellement déborder lors d'un gros aléa. On cite souvent la rue du Talweg qui s'appelle la rue du Talweg et pourtant les gens sont surpris quand il y a un peu d'eau qui coule. Donc à Millau, il y a deux gros chantiers qui ont été menés. C'est le chantier de Dourbiette à la confluence de la Dourbie et du Tarn. Une grosse zone d'expansion de crue a été réalisée et un chenal créé pour faciliter la circulation de l'eau en cas de montée des eaux. Le stade d'Eauville, qui est un outil de gestion de crue, puisque c'est un outil de délestage. Il y a un chenal sur l'île de la Maladrerie qui a été créé aussi. Et une arche a été rajoutée au pont Le Rouge depuis 82. Donc les enseignements ont été tirés depuis ce temps-là. Je crois qu'on n'est jamais prêt. Mais la culture du risque au sein des employés municipaux existe. Tout le monde est bien conscient de ce qu'on a à faire dans ces cas-là. Mais je crois que non. Si 82 se reproduit, je pense qu'on n'était pas prêt à l'époque. On ne le sera pas plus aujourd'hui. Je pense qu'il y a des niveaux d'eau ou des seuils au-delà desquels on ne peut plus agir et malheureusement il faut que ça passe et il faut être surtout acteur à la décrue et tirer les conséquences de ces aléas-là, quoi. Et en réalité, dans une petite commune, je pense qu'on sait s'organiser. Le plus difficile, c'est de prendre le temps de le formaliser sur un papier, dans un document, et d'arriver à tout synthétiser. Nous ici, la difficulté, elle est tout autre, je pense, c'est que nous, si nous le plan communal, il nous sert à l'inverse à s'organiser en temps de crise, et c'est son but, quoi, c'est qu'il soit le plus synthétique possible. Et ce qu'on marque dans le plan communal de sauvegarde, il faut que ce soit effectif. On peut pas dire on a des lits de camp stockés au gymnase Paul Thor, il faut effectivement qu'ils y soient, et comment on ouvre, comment on va les chercher, qui est-ce qui y va, combien il y en a. On est capable de on a des stocks de denrées alimentaires, donc ça il faut que ce soit à jour. Fait ça, et ça appelle un vrai travail de fond derrière, quoi. Là, on est en train de remettre en peinture les panneaux d'annonce de cru, donc c'est des panneaux sur lesquels on écrit à la craie la hauteur d'eau actuelle, la hauteur d'eau prévue. C'est ça peut paraître archaïque, mais en cas de coupure totale des communications ou de l'électricité, c'est le seul moyen qu'on a qui nous permet de donner des informations aux riverains sur les hauteurs d'eau et sur la situation et comment elle va évoluer, quoi.
Entretenir la culture de ce risque d'inondation, les bons réflexes et la vigilance, c'est le travail de Jade Bréchignac au syndicat mixte Tarn-Amont.
Alors, je m'appelle Jade Bréchignac et je suis chargée de mission inondation, agriculture et forêt aussi, pour faire le lien avec les ruissellements, au syndicat Tarn-Amont. Et donc j'anime le PAPI, le programme d'action de prévention des inondations. Alors, il y a plusieurs endroits. Il y a des endroits qui paraissent assez logique, enfin assez intuitif, qui sont donc en bord de Tarn, en bord de Dourby, donc vraiment autour des cours d'eau. Donc les zones inondables sont assez grandes, hein, et sont repérées aussi par des repères de crues assez régulièrement qu'on a posés dans la ville. Mais elles sont aussi dans les ravins à Millau, donc vraiment sur les parties hautes. Mais les risques sont aussi sur la partie haute de Millau, dans les ravins, où on ne voit pas l'eau au quotidien, mais qui là, eux, peuvent monter en charge en cas d'orage qui serait localisé au-dessus de ces ravins. Et donc là, c'est un peu plus complexe, parce qu'on oublie que ces endroits sont... qu'on puisse être soumis aux inondations là-haut, alors qu'on est très loin du Tarn ou de la Dourby. Alors, un ravin, c'est une zone d'écoulement de l'eau. En fait, la plupart du temps, c'est une zone de creux, où quand il pleut, on imagine que toute l'eau vient ruisseler et se concentre à cet endroit-là. Donc, c'est les zones d'écoulement préférentielles de l'eau. Il y en a une dizaine qui traversent Millau, des plus ou moins importants. Historiquement, ces ravins servaient souvent de chemin, parce que on n'était pas sur les coteaux. En fait, on prenait le fond du lit et puis on remontait. Cet usage des ravins est resté encore aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui aujourd'hui ont été transformés en routes. Mais ce qui fait encore un peu plus qu'on a oublié que, en fait, sous la route, il y a des buses. Et donc, sous la route, la plupart du temps, l'eau passe quand ça coule. Par contre, ça peut déborder sur la route et donc dans les habitations qui sont de part et d'autre de la route. Par contre, en cas d'orage très fort, très intense et très localisé, on peut avoir, mais ça c'est partout à Millau et partout sur le territoire et même partout en France, il suffit qu'il y ait une pluie un peu trop importante qui dépasse la capacité d'infiltration du sol, soit parce qu'il est imperméabilisé, soit parce qu'il est déjà saturé, et donc là l'eau va pas pouvoir s'infiltrer et donc l'eau va ruisseler. Donc en fait, on peut avoir potentiellement des inondations partout. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir peur partout. On se prémunit dans les zones qu'on connaît, ravins y compris, mais il faut garder ça à l'esprit qu'en cas d'orage, on ne contrôle pas l'eau qui tombe des nuages. Donc ça, on ne pourra jamais rien y faire. Par contre, on peut s'y préparer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce grand orchestre d'instruments ? Si, il y a les diagnostics de vulnérabilité. Donc là, c'est vraiment un bureau d'études spécialisé avec un géomètre qui vient chez l'habitant ou chez l'entreprise, ou chez le camping, par exemple, et qui va identifier, donc matérialiser le niveau d'inondation réglementaire, donc ça qui est défini la plupart du temps par des études de l'État, et donc qui va, à partir de cette hauteur d'eau, identifier tout ce qui est en zone inondable, et du coup, proposer des mesures pour essayer de réduire la vulnérabilité. Donc ça peut être surélever les prises, surélever les équipements de chauffage, les équipements, enfin tout ce qui peut être électrique, empêcher l'eau d'entrer. Donc en fait, il y a deux stratégies. Il y a une première stratégie qui est d'empêcher l'eau d'entrer dans le bâtiment, mais qui ne fonctionne que jusqu'à un certain niveau d'inondation. Au bout d'un moment, on est dépassé et tant pis. Et donc, à ce niveau-là, le but, c'est d'éviter les victimes et de faciliter le temps de retour à la normale, qui soit le plus court possible, et donc de diminuer au maximum les dégâts. Et donc ça implique d'avoir des maisons qui sont préparées. On imagine bien la différence entre une maison qui a de la moquette au rez-de-chaussée et une maison qui a du carrelage au rez-de-chaussée. Le carrelage est beaucoup plus facile à nettoyer. Et dernier outil, enfin dernier instrument qu'on peut avoir, là on est plus sur la gestion des écoulements et des ruissellements. Et on peut mener notamment, en lien avec les agriculteurs, des opérations, donc plus sur les versants, pour essayer de freiner l'eau au maximum en amont, pour essayer d'éviter qu'elle vienne se concentrer trop rapidement dans les ravins ensuite. Et donc là, ça peut passer par l'implantation de haies, par réfléchir avec eux sur leurs pratiques agricoles, essayer de laisser les terres le moins à nu possible pour éviter les départs de sol et l'érosion. Il ne faut pas se mettre en danger. On peut se mettre en danger notre vie ou celle de nos familles, mais aussi tout ce qui est dégâts. Et ces dégâts ont un coût pour la société, pour nous-mêmes, pour les assurances. Les assurances sont de moins en moins enclines à assurer. On a les primes d'assurance justement sur la partie catastrophe naturelle qui n'arrête pas d'augmenter en lien du coup avec toutes les catastrophes qu'on a actuellement. Et puis une inondation qui arrive dans sa maison, c'est quand même pas anodin. Quand on voit, même si c'est que son rez-de-chaussée et qu'on est le plus préparé possible, qu'on a dû évacuer, qu'on ne sait pas dans quel état on va retrouver notre maison, même si on n'a pas de dégâts matériels, ça reste un traumatisme. Et par contre, plus on est préparé, plus on sait que ça peut arriver, plus on l'aura en tête. Et il faut le répéter très régulièrement parce qu'on oublie, parce que le cerveau humain est bien fait. C'est-à-dire qu'il est résilient, donc il oublie les catastrophes, il oublie à quel point c'était, la plupart du temps, il oublie à quel point c'était traumatique et traumatisant. Mais du coup, il faut le répéter. Alors, ce n'est pas pour entretenir le traumatisme, au contraire, c'est le prendre sous l'aspect technique et sous l'aspect historique, et du coup, savoir que ça peut arriver et savoir comment réagir. Ou en fait, historiquement, les maisons dans la région, mais c'est vrai dans beaucoup de secteurs en France, n'avait pas de pièce de vie au rez-de-chaussée. Et ça, on le voit très bien, par exemple, à Aguessac ou sur les quais à Millau. La porte d'entrée, elle est au-dessus de 2, 3, voire 4 marches d'escalier. Et les pièces de vie, cuisine, chambre, etc., commencent à partir du premier étage. Et donc, au rez-de-chaussée, c'était du stockage ou alors, dans les zones plus rurales, le fourrage, les bêtes, la vache, le cochon, les bêtes qui vivaient avec nous. Et j'ai eu des histoires, notamment une qui m'avait marquée, où un monsieur d'un certain âge, mais pas non plus, il avait je crois une soixantaine d'années, qui se rappelait quand il était petit garçon, qu'à l'époque ils avaient monté la vache et que lui il avait dormi avec la vache qui était entre la porte de la chambre et du salon. Et donc ça c'est... Donc historiquement en fait les maisons étaient faites pour... Enfin faites, étaient organisées pour que l'eau puisse passer et fasse le moins de dégâts possible et qu'on puisse... schématiquement continuer à vivre normalement alors que l'eau était venue et s'était retirée et du coup le temps qu'on nettoie tout ça. Donc ça c'était les bonnes pratiques historiques. On a un peu perdu ça dans certains secteurs parce que ça a coïncidé, en fait il y a un moment où il y avait moins d'inondations, on a perdu cette culture du risque et donc ça a coïncidé avec un moment aussi où les gens avaient plus d'argent, donc après les 30 glorieuses. Et du coup, ils se sont rendus compte que, attends, mais ma maison, elle ne fait pas que un étage, voire deux étages, j'ai aussi tout un rez-de-chaussée. Et donc, ils sont venus installer des pièces de vie, donc des cuisines, des salons, des salles de bain, des chambres, au rez-de-chaussée. Mais du coup, ils ont augmenté la vulnérabilité, augmenté les enjeux qui se trouvaient en zone inondable. Mais il y a des endroits où on s'imagine un peu protégé, parce qu'on est... il y a quelque chose qui nous protège par rapport à la rivière. Ça, c'est une fausse impression. De sécurité parce que ces aménagements d'une ne sont pas faits pour et de deux peuvent briser et peuvent même être dépassés. Donc il faut garder à l'esprit que ben, la rivière, ça vit, ça bouge, ça monte, il y a des crues. Et la plupart du temps, ben, c'est super de vivre au bord de l'eau. Et ça, c'est ce que la plupart des gens qu'on a pu interviewer dans les podcasts et dans les recueils de mémoire, ils aiment leur rivière et ils savent, ils ne pourraient pas vivre sans elle. Par contre, oui, ben, des fois, c'est une voisine qui est un petit peu encombrante, quoi, voire un peu terrifiante.
Et si l'on devait se quitter sur de bons conseils, c'est ce que j'ai demandé à Jade Bréchignac.
Pas marcher dans l'eau. Non, l'eau d'inondation, c'est pas que de l'eau. En fait, c'est souvent de l'eau, de la boue, des arbres. C'est de l'eau qui est turbide. Enfin, on voit pas à travers. Donc, on voit pas où on met les pieds. On voit pas ce qui peut passer dedans. 10 cm, ça peut suffire à ce, s'il y a assez de courant, on tient plus debout. Donc, ça, faut y faire attention. Si on est en ville, il y a les avaloirs, les bouches d'égout qui peuvent aspirer. Donc ça, c'est des histoires affreuses, mais qui existent, de gens qui tombent là-dedans. Donc on essaye d'éviter à tout prix, si on peut l'éviter, de marcher dans l'eau. On écoute les autorités si elles nous disent d'évacuer. Idéalement, on a préparé en amont un petit kit de survie, qui est un sac à dos avec les affaires principales si on doit évacuer. On ne va pas chercher ses enfants à l'école. En fait, dans les écoles et dans tous les bâtiments publics, et encore plus dans les écoles, ils sont pris en charge. En fait, il y a des plans qui sont organisés pour, en cas de crise, en cas d'inondation. Donc, on va pas les chercher, on les laisse là où ils sont. On s'engage surtout pas en voiture sur une zone inondée. La voiture, s'il y a un peu de courant, peut être emportée. S'il y a trop d'eau, elle peut flotter. Là, pareil, en fait, les pompiers, ils ont l'habitude de dire qu'à partir de tiers de roue, de niveau d'eau, un tiers de la roue, la voiture peut être emportée. Donc, les enfants, les voitures, les piétons, je crois que c'est déjà pas mal.
C'est la fin de cette série de podcasts consacrée à l'eau, ses usages et ses enjeux en Sud-Aveyron. Cette série a été réalisée dans le cadre d'une résidence de journaliste menée par moi-même, Lola Cross, au sein de Radio Larzac, grâce au financement de la DRAC Occitanie. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes et l'intégralité de la série en podcast sur le site de Radio Larzac.